Marcelino Mendoza.
R.
F.
Oscar Limachi.
I.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Le lac Titicaca, situé entre la Bolivie et le Pérou, est le symbole de la pureté andine. Ses eaux bleues nuit reflètent les sommets alentours, qui culminent pour la plupart à plus de 6000 mètres d'altitude. Mais au printemps dernier, un tiers du petit lac, la partie sud, près de la Bolivie, s'est couverte d'algues vertes et de poissons morts. Un choc pour la population locale. Heureusement, le plus grand lac d'altitude du monde est étudié depuis des décennies par les scientifiques de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement français. Une solution émerge, la totora, le roseau qui pousse dans ses eaux, pourrait lui faire retrouver ses couleurs en attendant que la Bolivie construise des stations d'épuration. Frédéric Faux est allé à la rencontre de centaines de fonctionnaires et de militaires qui se sont donné rendez-vous à El Alto et Viacha sur l'Altiplano pour nettoyer les affluents du lac Titicaca.
On va nettoyer d'ici jusqu'au pont. On va faire 6 groupes de 5 personnes. Alors on part avec des râteaux et on va tout ramasser, mettre les ordures dans des sacs.
Voilà, autour de moi, il y a une véritable armée de nettoyeurs. Les rives sont littéralement couvertes d'ordures, hein. Des plastiques, des bouteilles, des pneus.
Nous sommes à Viacha, au bord d'une rivière qui va se jeter dans la baie de Coana, dans le lac Titicaca. C'est par ces rivières que passent tous les résidus de la population. Nous, ce qu'on veut, c'est donner le bon exemple. Et c'est la première fois qu'on fait une opération de cette ampleur.
Voilà, à côté, il y a un groupe de militaires là, sous un pont, qui sont en train de nettoyer une véritable décharge.
Les gens du coin n'ont pas d'esprit civique. Ce sont les premiers à jeter leurs ordures ici. Alors que ce sont eux qui devraient nettoyer. Quand j'avais 5 ans, cette rivière était propre. Mais elle a été contaminée par les ordures. Tout finit toujours dans le lac Titicaca.
Voilà, toutes ces ordures sont rassemblées dans des sacs poubelles qui sont ensuite montées sur la route qui longe la rivière, où il y a des camions qui attendent. Donc samedi dernier, dans une opération similaire, on a ramassé comme ça 4 tonnes de déchets, mais je pense que là, on va battre le record. Voilà, tout le monde a le visage couvert d'un masque en tissu, hein, parce que l'odeur est assez insupportable. L'eau a une couleur rougeâtre, il y a des bulles qui crèvent à la surface. Voilà, et un râteau à la main, là, à côté de moi, bien, c'est la ministre de l'Environnement.
Si? Hola.
Si, si, si.
Ok. Soy Alexandra Moreira, soy la ministra de Medio Ambiente y Agua.
Je suis Alexandra Moreira, ministre de l'Environnement et de l'Eau de l'État plurinational de Bolivie. On a commencé une campagne de nettoyage pour récupérer un de nos lacs les plus importants, le lac Titicaca. On prépare aussi un plan plus large avec une gestion globale du bassin versant et la planification de futures stations d'épuration. On a reçu plus de 50 projets venus de centres de recherche, d'universités, d'associations, de groupes de jeunes qui ont des idées pour protéger l'environnement. Par exemple, avec la création de cordons de totora au bord du lac. La totora, c'est un roseau qui a la propriété de purifier l'eau.
Avoir 50 réponses pour un appel à projet concernant une question environnementale en Bolivie, c'est quand même assez exceptionnel. Ça veut dire que le lac, quand même, ça mobilise les gens ici.
Le lac Titicaca est un symbole de la Bolivie. Les gens sont tellement mobilisés qu'ils nous ont demandé d'allonger les délais pour pouvoir présenter encore d'autres projets.
Voilà, on va suivre maintenant cette rivière Palina sur l'Altiplano. Elle va rejoindre d'autres affluents et déboucher au bout d'une centaine de kilomètres dans le lac Titicaca, voilà, à la hauteur d'un endroit qui s'appelle la baie de Coana. Xavier Lazaro de l'Institut de recherche pour le développement, spécialiste du Titicaca.
Les habitants du petit lac ont commencé à se plaindre dans plusieurs zones de la couleur de l'eau qui était devenue vert, mais vert foncé, une consistance un peu de soupe en surface et des mortalités de poissons observées et de grenouilles. Ça a dû commencer vers la fin du mois de mars et le processus a duré pendant tout le mois d'avril et le bloom a disparu. Ce qu'on appelle un bloom, c'est une prolifération d'algues microscopiques. A disparu vers la fin du mois d'avril. Ce qui s'est passé, le bloom est en fait le résultat de ce qui s'appelle l'eutrophisation, c'est-à-dire un excès de nutriments, c'est-à-dire d'azote, de phosphore. Alors ce qu'on a pu reconstituer, c'est que les pluies ont été beaucoup plus importantes, en fait le double de la normale saisonnière. Comme les pluies se sont prolongées, elles ont ruisselé sur le littoral du lac, et comme le littoral est densément peuplé maintenant, l'eau a emmené tous les nutriments, mais aussi tous les contaminants, c'est-à-dire les agrotoxiques et aussi les eaux usées qui sont déversées normalement dans le lac sans aucun traitement. Et donc cet apport excessif en matière organique et en nutriments a favorisé la croissance des algues qui se sont développées. Ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent, c'est que le phénomène puisse occuper à peu près le tiers du petit lac pendant plus d'un mois. Ça n'avait jamais été vu. Donc on se trouve dans une situation où il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Les poissons et surtout les grenouilles qui ont du mal à se déplacer sont mortes.
En fait, c'est une situation qu'on connaît bien en Europe et en France. Par exemple, le phénomène des algues vertes sur les plages en Bretagne, c'est ça aussi. La différence peut-être ici en Bolivie avec le lac, c'est que les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça. Ça a été un choc quand même pour les gens ici.
Jusqu'à présent, le lac était considéré comme un lac pauvre, un lac d'altitude, peu riche en nutriments. Bon, moi je suis arrivé ici, je devais faire une thèse sur justement le phytoplancton, les algues microscopiques du lac Titicaca. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, le lac était tellement pauvre, il y avait tellement peu de phytoplancton et tellement peu de chlorophylle, le pigment des algues, que le fluorimètre que nous avions, qui était pourtant le nec plus ultra des fluorimètres qui est utilisé en océanographie, n'arrivait absolument pas à détecter de chlorophylle. C'était vraiment de l'eau très très pure. En fait, on aurait pu s'en servir comme contrôle, comme eau pure de contrôle. Oui, il y avait très très peu de nutriments dans l'eau. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Donc, le lac Titicaca, dans les années fin des années 70-80, était comme n'importe quel lac de haute montagne tropico andin ici, un lac très très pauvre. Mais on a observé depuis les 15 dernières années à peu près que la densité de population autour du lac, notamment le petit lac, a augmenté énormément. Actuellement, il y a 3 millions de personnes entre le Pérou et la Bolivie. On a aussi la zone de la baie de Coana où les eaux usées, les eaux industrielles et les eaux minières de la ville d'El Alto sont déversées via le rio Palina et le rio Catari, qui se transforment en dépotoir en fait pendant la période sèche et où les conditions sont tellement extrêmes qu'il n'y a aucune vie en fait dedans, ou très très peu d'oxygène. On a maintenant une ville qui représente à peu près 1,2 million d'habitants qui déverse ses eaux non traité ou pratiquement non traité dans la baie de Coana, dans le petit lac. Donc ça a été aussi une contribution importante au phénomène observé.
Entonces, Francia, ¿qué noticia pasa? Bonjour à Radio France Internationale. On a eu beaucoup de pollution à cet endroit, dans la baie de Coana. Quand on met à sécher sur le sol les algues que nous appelons okururo, elles contaminent nos champs. On y cultive des pommes de terre, de l'orge, de la quinoa, mais en petite quantité, car on ne peut pas servir de l'eau du lac pour arroser. Avant, cette pampa était une merveille du monde. Des années 70 jusqu'à 2000, il y avait beaucoup de poissons et maintenant, ils ont complètement disparu. Les villages dépérissent. Toute cette eau sale, elle vient de l'Alto.
Donc il faut quand même décrire l'endroit où on est presque au bout d'une presqu'île qui s'avance dans le lac. Devant nous, on voit le lac, mais aussi on voit toute une étendue de roseaux. C'est ça que vous appelez la pampa. En fait, ce sont des sortes d'îles qui sont près des villages, comme ça, à l'intérieur du lac Titicaca.
Oui,
ce sont des îles, on en a beaucoup.
Ici, dans ce village, comme tous les villages autour du lac Titicaca, qui sont très nombreux du côté bolivien, vous vivez vraiment avec le lac, vous dépendez du lac.
Le lac ne nous sert plus car l'eau est contaminée, on est foutu. Moi, je suis le chef de ce secteur. Et un jour, on va bloquer les routes pour qu'on nous écoute.
Si vous ne pouvez plus cultiver ici, si vous ne pouvez plus faire d'élevage, ça veut dire que les jeunes du village, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent ou ils doivent s'en aller?
Les jeunes s'en vont. Après le lycée, ils vont faire leur vie ailleurs, parce que c'est impossible de vivre ici. Voilà, c'est tout.
Voilà, il y a d'autres habitants du village qui sont arrivés. Il y a une réunion justement qui va être consacrée à ce sujet qui va commencer.
Al final del trabajo, trabajo comunal, se va a realizar la reunión.
Ok, ok. Tous ces villageois qui sont réunis, c'est pour faire un travail communal. Ça s'appelle l'Aini dans la culture Aymara.
Carlos Mamani Quispe, nada. Margarita Mamani Choque, nada.
Voilà, il y a le chef du village, hein, ce n'est pas le maire, hein, mais disons l'autorité traditionnelle Aymara, voilà, qui fait l'appel pour voir qui est présent et qui est absent pour ce travail collectif. Voilà, qu'est-ce
que tu as? Oui, vous pouvez réclamer.
Vous êtes de ce pueblo?
Non, je ne suis pas du village. Je représente le projet Miagua, un projet pour fournir de l'eau potable au village. On va récupérer l'eau de pluie sur les toits, avec les gouttières, pour remplir des réservoirs.
C'est quand même incroyable de voir qu'ici, tout le monde se bat pour l'eau, alors qu'on est quand même en face de l'un des plus grands lacs d'altitude du monde, où il est censé avoir une eau pure et disponible.
L'eau est polluée. On peut tomber malade, les hommes, les enfants, les animaux aussi.
On voit quand même toute l'importance du lac ici, non seulement pour les pêcheurs, mais pour les agriculteurs aussi, parce que on est dans un endroit très sec, on est sur l'altiplano, et ce que sont en train de brouter les vaches là qu'on voit à côté de nous, en fait, ce sont les roseaux du lac. La principale nourriture pour les animaux, c'est la totora, donc des sortes de grands roseaux, et okoruro, qui sont des sortes de petits nénuphars qui sont à la surface de l'eau.
Dans beaucoup de villages en Bolivie, on fait des travaux en commun, que ce soit pour les récoltes, les semis, pour faire pâturer les animaux. Ça maintient les gens unis.
Voilà, donc ils sont très organisés et on voit que ce n'est pas seulement les hommes qui travaillent, c'est les femmes aussi. Hein. Ici en Bolivie, on voit souvent, même pour des travaux de force comme ça, donc faire des tranchées, eh bien, ce sont les hommes et les femmes qui travaillent. Là, on voit un groupe de femmes avec des pics et des pioches à la main. Alors, effectivement, l'organisation est importante dans ces villages, et après ces travaux, il va y avoir une réunion consacrée justement à la pollution du lac Titicaca. Ça montre que pour eux, c'est vraiment quelque chose de très important.
Oui, c'est important pour eux. Leur bateau, ils s'en servent pour pêcher, mais aussi pour se déplacer. Et quand ils voyagent sur le lac, ils voient bien qu'il est pollué. Et ça les rend fous de voir ça. C'est ce qu'ils ont de plus précieux. Leurs maisons sont au bord du lac.
questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Jusqu'à présent, ces bancs de plantes de Totora ont toujours réussi à traiter la plus grosse partie de la matière organique, des nutriments et des toxines qui arrivent. Mais dans ce qu'on a assisté dans le petit lac, nous montre que maintenant le système naturel n'est plus capable d'épurer la charge excessive. Donc heureusement, les autorités en Bolivie, notamment le ministère de l'Environnement, le MAIA, ont pris les choses vraiment sérieusement et sont en train de financer des programmes notamment de suivi du lac. Le lac Titicaca est le dernier des 20 grands lacs, considérés comme les 20 grands lacs du monde, à ne pas avoir un suivi en continu. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble du lac, quelles sont les conditions de la qualité de l'eau, et on est donc incapable de prévoir des événements qui pourraient se produire dans le futur. Donc ils vont financer ça, un observatoire, un suivi en continu à long terme, et aussi des mesures pour renforcer les bandes de macrophytes le long du lac, pour jouer leur rôle de nouveau de filtre naturel. Le lac Titicaca, quand on en parle, on s'aperçoit que la plupart des gens dans le monde entier connaissent le nom du lac Titicaca, ont une vague idée qui se trouve en Amérique du Sud, en altitude, et disent toujours c'est le lac, le plus haut lac navigable au monde. Ce qui est vrai, mais il a d'autres caractéristiques beaucoup plus intéressantes. C'est qu'il combine à la fois le côté tropical, donc c'est un lac qui ne gèle pas en surface l'hiver. Une autre caractéristique, c'est du fait de sa haute altitude, il n'y a pratiquement pas d'atmosphère qui empêche la pénétration du rayonnement UV. Donc le rayonnement ultraviolet est très très fort sur le lac. Donc on assiste en surface à un phénomène d'inhibition de la photosynthèse du phytoplancton, des algues. Elle plonge en profondeur, donc le maximum d'algues microscopiques que l'on trouve, c'est en général entre 5, 10, 15 ou même 25 mètres de profondeur. Alors que dans un lac tempéré, généralement les algues se concentrent dans les premiers mètres pour avoir la lumière. Donc le lac, malgré qu'il commence à se trophiser, est toujours très transparent. Et du fait que toute sa faune et sa flore sont endémiques, c'est-à-dire ne sont originaires que de cette région, on peut avoir des craintes que certaines espèces végétales ou animales puissent disparaître et qu'en fait aucune autre ne puisse les remplacer parce qu'il n'y a pas d'inoculum d'ailleurs. Donc cela explique pourquoi le lac est en fait unique et aussi très sensible à tout changement climatique ou qui en fait est une conséquence de l'activité humaine. Et la crainte que l'on a, c'est que cette fois-ci, on a eu un bloom d'algues vertes qui s'appelle les Carteria, qui sont des petites algues unicellulaires qui font 10 millièmes de millimètre. C'est vraiment tout petit. Mais dans le futur, on pourrait assister à des blooms d'autres types d'algues. Et ces algues, généralement, sont coloniales ou filamenteuses, donc de plus grande taille, et n'ont pas de filtreur. Le zooplancton, donc le plancton animal, ne peut filtrer que des algues jusqu'à à peu près 20 microns en taille, 20 millièmes de millimètre. Et les algues filamenteuses ou coloniales type cyanobactéries sont beaucoup plus grandes que ça. Et donc, n'ayant pas de brouteur, elles vont se développer sans limite.
Donc le lac Titicaca est moins équipé, disons, qu'un autre pour digérer cette pollution, ces apports de nutriments.
Il est moins équipé au niveau phytoplancton, mais jusqu'à présent, il était bien équipé au niveau macrophyte avec d'importants bancs de Totora qui malheureusement sont en train de dépérir un petit peu du fait de l'activité humaine le long du littoral, de l'utilisation des Totora pour l'artisanat, pour alimenter les animaux et aussi parfois pour faire des chenaux, pour se déplacer. Donc l'idée, c'est de redonner au lac Titicaca sa capacité de filtration naturelle en stimulant la croissance de nouveau des totoras, qui sont vraiment un filtre naturel qu'il faut utiliser.
Je m'appelle Fiorentino Mamani. Je suis en charge de la reproduction des poissons dans ce centre de recherche.
On est à un endroit qui s'appelle le détroit de Tiquina. Et donc c'est à cet endroit-là que se sépare le petit lac Titicaca du Grand Lac. Entre les deux, il y a juste un détroit, donc un bras d'eau qui fait à peu près 900 mètres. On voit un paysage de collines ocre autour de nous, avec des eucalyptus sur le bord du lac. Et donc sur notre droite, là, on voit vraiment toute l'amplitude du lac Titicaca, de ce Grand Lac. À l'horizon, on ne voit rien. C'est comme si on regardait la mer. On est à peu près à 3 heures en bateau de Kohana, donc l'endroit où on était tout à l'heure. Est-ce qu'ici, en fait, cette pollution, vous en subissez les conséquences aussi ?
Il
y a un mois et demi, tout le lac ici était verdâtre. Les gens qui vivent sur la rive étaient complètement effrayés. C'était la première fois qu'on voyait ça.
Là, on est au bord du lac et dans l'eau, on voit des cages d'élevage pour le poisson. Qu'est-ce que vous faites exactement ici ?
On
forme des villageois qui veulent faire de l'élevage de poissons.
Podemos ver? Hein? Voilà, on va s'approcher. On est sur une passerelle en bois qui surplombe cette prairie.
Totora, si la
messe. Voilà. Et là, on arrive au-dessus des totoras. Voilà, on a l'impression de marcher au-dessus d'une forêt immergée. On arrive à l'endroit où sont ces fameuses cages d'élevage. Voilà, on dirait que ce sont détruites, il y en a des milliers et des milliers.
Ce sont détruites arc-en-ciel et on fournit les alevins aux producteurs.
Il y a deux jeunes filles du village qui sont arrivées, elles veulent acheter des truites. Voilà, donc Fiorentino a pris une épuisette.
Ça va, je vais me faire.
8 unités. 8, voilà.
4 pour 1 kilo.
4 truites, 1 kilo, donc il en a mis 8. Combien de temps il faut pour avoir une truite adulte qu'on puisse manger ?
Un an.
Voilà, il suffit d'un an pour avoir une truite de 250 grammes.
Le week-end, il y a beaucoup de gens qui viennent acheter des truites au bord du lac. Elles sont aussi exportées dans les villes d'Oruro, de Potosi. C'est du travail et une bonne source de revenus.
Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à rejoindre le directeur de cette institution, École de Pisciculture. C'est aussi un centre de recherche aquacole sur les poissons du lac.
Je suis l'ingénieur Jesús Mendoza. Le lac a bénéficié d'une présence très importante d'espèces natives, dont la boga, qui n'existe plus. L'introduction de la truite, une espèce carnivore, a peut-être été une erreur. Les gouvernements militaires, que ce soit au Pérou ou en Bolivie dans les années 70, ont introduit des millions d'alevins de truites et de perches. Bon, au début, les pêcheurs étaient très contents car on remontait des tonnes de poissons. Mais peu à peu, on a constaté que ces truites et ces perches tuaient les poissons natifs comme la boga, l'ispi ou le carachi. L'autre problème, c'est que les pêcheurs n'ont pas compris l'importance d'une trêve pendant la reproduction. Quand les poissons se dirigent vers le bord du lac pour déposer leurs œufs dans les totoras, les pêcheurs continuent à sortir pêcher 365 jours par an, la biomasse du lac a diminué. L'excès de nutriments a provoqué un accroissement important d'algues. La situation du lac est critique. Il faut continuer les recherches, les études, pour éviter une possible catastrophe dans le futur.
Je suis Dario Acha, chercheur à l'Institut d'écologie de La Paz. Et nous sommes en ce moment dans le laboratoire de biotechnologie végétale. On a fait une étude qui s'est terminée en novembre dernier et qui a montré que la totora, associée à d'autres plantes, pouvait réduire drastiquement la pollution. À la sortie des totorales de la baie Kohana, la concentration de polluants est la plus faible, alors qu'à l'intérieur, la concentration est très élevée. De fait, il y a beaucoup d'études sur cette capacité à décontaminer qui ont été faites aux États-Unis ou au Canada. La totora absorbe les nutriments, comme n'importe quelle autre plante, ce qui évite l'eutrophisation. Mais ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'elle arrive à survivre dans ces milieux extrêmes. Par exemple, à Oruro, où il y a une forte pollution de métaux lourds, on a trouvé une algue qui vit autour de la totora et qui peut accumuler le mercure. La totora agit comme un filtre naturel.
Voilà, on va voir ces totoras qui sont cultivées ici de façon artificielle avec Jorge Quesada, responsable du labo. Mais pour ça, il faut enfiler une blouse. Ok. Podemos entrar?
Podemos.
Voilà, on va rentrer à l'intérieur du laboratoire. Voilà, dans une salle où on fait grandir les totoras en différentes conditions. Donc on a devant nous des étagères en métal avec des éprouvettes, des bocaux.
C'est la salle de croissance pour les totoras. Ici, on cherche les meilleures conditions qui favorisent cette croissance. Pour ça, on utilise des hormones végétales. Pour le moment, on a obtenu un taux de multiplication de 3 plantes nouvelles pour une plante d'origine en un mois. Cela veut dire qu'on pourrait obtenir aller 100 000 plantes en un an.
Ce que l'on constate, c'est une réduction des totoras près des villages. Notre idée, c'est de leur donner des plans, mais aussi de créer des îles flottantes de totoras pour avoir encore plus d'interaction avec l'eau et réduire la pollution.
Un reportage signé Frédéric Faux. Demain, nous parlerons de la lutte contre le braconnage et les trafics d'espèces protégées qui, malgré les beaux discours, est toujours en pleine expansion. Pourtant, de nombreuses solutions existent pour l'endiguer. Nous irons en découvrir avec des reportages au Bénin et Bertrand Chardonnet, consultant pour la gestion des aires protégées en Afrique depuis plus de 30 ans, sera notre invité. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.